Chapitre 2. Un orfèvre au XVIe siècle. Puisque nous avons fait le portrait et que nous avons prononcé le nom de Benvenuto Cellini, que le lecteur nous permette, afin qu'il puisse entrer plus avant dans le sujet tout artistique que nous traitons, une petite digression sur cet homme étrange qui depuis 2 mois habitait la France et qui est destiné, comme on s'en doute bien, à devenir un des personnages principaux de cette histoire. Mais auparavant, disons ce que c'était qu'un orfèvre au XVIe siècle. L'orfèvrerie aujourd'hui est un métier. Autrefois, l'orfèvrerie était un art. Il est vrai que les orfèvres de cette époque se nommaient Donatello Gilberti, Ghirlandaggio et Benvenuto Cellini. Or, Benvenuto Cellini a raconté lui-même, dans ses mémoires plus curieux que les plus curieux romans, cette vie aventurière des artistes du XVe et du XVIe siècle, quand Titien peignait la cuirasse sur le dos et que Michel-Ange sculptait l'épée au côté, quand Masaccio et le Dominicain mouraient du poison, et quand Côme Ier s'enfermait pour retrouver la trempe d'un acier qui put tailler le porphyre. Nous ne prendrons donc pour faire connaître cet homme qu'un épisode de sa vie, celui qui le conduisit en France. Benvenuto était à Rome, où le pape Clément VII l'avait fait appeler, et il travaillait avec passion au beau calice que sa sainteté lui avait commandé. Mais comme il voulait mettre tous ses soins à ce précieux ouvrage, il n'avançait que bien lentement. Or, Benvenuto, comme on le pense bien, avait fort envieux, tant à cause des belles commandes qu'il recevait des ducs, des rois et des papes, qu'à cause du grand talent avec lequel il exécutait ses commandes. Il en résultait qu'un de ses confrères, nommé Pompeo, qui n'avait rien à faire qu'à calomnier, lui, profitait de ses retards pour le desservir tant qu'il pouvait près du pape, et cela tous les jours, sans trêve, sans relâche, tantôt tout bas, tantôt tout haut, assurant qu'il n'en finirait jamais, et que, comme il était accablé de besogne, il exécutait d'autres travaux au détriment de ceux commandés par sa sainteté. Il dit et fit tant, ce digne Pompeo, qu'un jour, en le voyant entrer dans sa boutique, Benvenuto Cellini jugea tout de suite à son air riant qu'il était porteur d'une mauvaise nouvelle. « Eh bien, mon cher confrère, dit-il, je viens vous soulager d'une lourde obligation. Sa sainteté a bien vu que si vous tardiez tant à lui livrer son calice, ce n'était pas faute de zèle, mais faute de temps. Elle a pensé en conséquence qu'il fallait débarrasser vos journées de quelques soins importants, et de son propre mouvement, elle vous retire la charge de graveur de la monnaie. » Ces 9 pauvres ducadors que vous aurez par mois de moins, mais 1 heure par jour que vous aurez de plus. » Benvenuto Cellini se sentit une sourde et furieuse envie de jeter le railleur par la fenêtre, mais il se contint, et Pompeo, ne voyant bouger aucun muscle de son visage, crut que le coup n'avait pas porté. En outre, continua-t-il, et je ne sais pourquoi, malgré tout ce que j'ai pu dire en votre faveur, sa sainteté vous redemande son calice tout de suite et dans l'état où il est. J'ai vraiment peur, mon cher Benvenuto, et je vous préviens de cela en ami, qu'elle n'ait l'intention de le faire achever par quelqu'un d'autre. Oh, pour cela non, s'écria l'orfèvre, se redressant cette fois comme un homme piqué par un serpent. Mon calice est à moi, comme l'office de la monnaie est au pape. Sa sainteté n'a d'autre droit que d'exiger les 500 écus qu'elle m'a fait payer d'avance, et je ferai de mon travail ce que bon me semblera. Prenez garde, mon maître, dit Pompeo, car peut-être la prison est-elle au bout de ce refus. Monsieur Pompeo, « vous êtes un âne, » répondit Benvenuto Cellini. Pompeo sortit furieux. Pompeo fit si bien auprès du pape que Benvenuto fut conduit en prison. Cependant, Clément VII fut désespéré de voir son calice inachevé, et bientôt, malgré toutes les remarques de Pompeo, il céda, rendit à Cellini son amitié et sa faveur, et même lui fit faire sa médaille. Benvenuto la lui frappa en bronze, en argent et en or, puis il la lui porta. Le pape en fut si émerveillé qu'il s'écria dans son admiration que jamais les anciens n'avaient fait une si belle médaille. Aussi la désolation de Benvenuto fut-elle grande lorsque, quelques mois après l'aventure que nous venons de conter, le pape mourut subitement. Cet homme de fer fondit en larmes à cette nouvelle, et pendant 8 jours il pleura comme un enfant. Et cette mort rendit sa hardiesse à Pompeo, qui avait juré de se venger de son insuccès. Il alla au-devant de Cellini, accompagné de 12 hommes bien armés, qu'il payait aussi cher que le pape sa garde suisse, et il le rencontra au coin de la Via Chiavica. C'était quelque chose d'insensé à un homme que d'attaquer 13 hommes, mais Benvenuto était, comme nous l'avons dit, une de ces natures léonines qui ne comptent pas leurs ennemis. Il tira contre ces 13 épées qui le menaçaient. Il tira un petit poignard aigu qu'il portait toujours à sa ceinture, s'élança au milieu de cette troupe, ramassant avec un de ses bras 2 ou 3 épées, renversant de l'autre 2 ou 3 hommes, si bien qu'il arriva du coup jusqu'à Pompeo qu'il saisit au collet, mais aussitôt le groupe se referma sur lui. Alors on ne vit plus rien qu'une mêlée confuse de laquelle sortaient des cris et au-dessus de laquelle s'agitaient des épées. Pendant un moment, ce groupe vivant roula sur lui-même, informe et désordonné, et puis un homme se releva en jetant un cri de victoire et d'un violent effort sortit du groupe, tout sanglant lui-même, mais secouant triomphalement son poignard, c'était Benvenuto Cellini. Un autre resta couché sur le pavé, se roulant dans les convulsions de l'agonie, c'était Pompeo. Un autre que Benvenuto se serait sauvé à toutes jambes, mais Benvenuto fit passer son poignard dans sa main gauche, tira son épée de sa main droite et attendit résolument les 12 sbires. Mais les sbires n'avaient plus rien à faire, celui qui les payait était mort et par conséquent ne pouvait plus les payer. Ils se sauvèrent comme un troupeau de lièvres effarouchés, laissant le cadavre de Pompeo. Benvenuto se retira chez lui, assez inquiet, non pas des 3 blessures qu'il avait reçues, mais de ce qui allait se passer. En effet, la police s'enquit de l'affaire, et Benvenuto fut saisi et arrêté par les sbires pontificaux au moment où il brûlait quelques papiers et mettait quelques écus dans sa poche. Ils le conduisirent au château Saint-Ange. Pour Benvenuto existait une seule solution, fuir à tout prix, car le nouveau pape Paul III était vindicatif en diable, et Benvenuto avait eu, quand il n'était encore que Monsieur Farnèse, maille à partir avec lui à propos d'un vase d'argent qu'il refusait de livrer faute de paiement. En outre, le Saint-Père était jaloux de ce que François Ier avait déjà fait demander Benvenuto par Monseigneur de Montluc, son ambassadeur auprès du Saint-Siège. En apprenant la captivité de Benvenuto, Monseigneur de Montluc était tout de suite intervenu, mais il s'était fort trompé sur le caractère du pape, qui avait juré que Benvenuto lui paierait son escapade, et s'il n'y risquait pas précisément la mort, il risquait fort au moins d'être oublié dans sa prison, car le pape, irrité de l'intervention de François Ier, ne voulait même plus entendre prononcer le mot de Benvenuto Cellini. Ce dernier résolut donc de s'évader. Il commença à réclamer de la terre et un outil à modeler. Le gouverneur accéda à cette demande et Benvenuto ébaucha aussitôt une Vénus colossale. Il avait minutieusement examiné sa chambre et avait été fixé sur les moyens d'évasion. Sa fenêtre était grillée et trop bien pour céder au seul outil de fer qu'il posséda, et sa cheminée se rétrécissait au point qu'il eût fallu se changer en serpent pour y passer. La porte était une porte de chêne, épaisse de 2 doigts, fermée par 2 serrures, close par 4 verrous et recouverte en dedans de plaques de fer maintenues en haut et en bas par des clous. C'était par cette porte qu'il fallait passer. Pendant 1 mois, voici le travail auquel se livra Benvenuto. Avec son outil à modeler qui était en fer, il avait, l'une après l'autre, enlevé toutes les têtes de clous, à l'excepté des 4 du haut et des 4 du bas qu'il réservait pour le dernier jour. Et puis, pour qu'on ne s'aperçût pas de leur absence, il les avait remplacées par des têtes de clous modelées avec de la glaise, qu'il avait recouvertes avec de la raclure de fer, de sorte qu'il était impossible de reconnaître les fausses des vraies. Puis, chaque soir, quand tout le monde était couché, il faisait grand feu dans sa cheminée et transportait le long des plaques de fer de sa porte un amas de braises ardentes. Alors le fer rougissait et réduisait tout doucement en charbon le bois sur lequel il était appliqué, sans que cependant, du côté opposé de la porte, on puisse apercevoir de cette carbonisation. Pendant un mois, il se livra à ce travail. Et puis le prisonnier n'attendit plus qu'une nuit favorable. Il choisit une nuit abominable, pluvieuse et sombre, et où personne ne se souciait de sortir. Dès qu'il eut entendu sonner 10 heures et relevé la sentinelle, il tomba à genoux, et après avoir dévotement prié Dieu, il se mit à l'œuvre. D'abord il arracha les têtes de clous qui restaient et qui maintenaient seules les plaques de fer. La dernière venait de céder quand minuit sonna. Benvenuto perçut les pas de la ronde qui montait vers la terrasse, la pluie redoublait et il l'entendait fouetter contre ses carreaux. Puis la ronde redescendit, les pas s'éloignèrent et il commença à arracher les plaques de fer que plus rien ne retenait et qui bientôt cédèrent. Il les posa l'une après l'autre contre le mur, puis il se coucha à plat ventre, attaquant le bas de la porte avec son outil à modeler qu'il avait aiguisé en forme de poignard et emmanché dans un morceau de bois. Le bas de la porte céda, le chêne étant complètement réduit en charbon. Il pratiqua alors une échancrure par laquelle il put sortir en rampant. Suivant le mur du corridor, les genoux tremblants et le souffle court, il parvint, en évitant la sentinelle dans sa guérite, jusqu'à la plateforme de la prison. Là, il accrocha à des briques scellées dans la muraille de longues bandes de toile tressée qu'il avait obtenues en lacérant ses draps. Il lui fallut toute la nuit pour descendre de rempart en rempart jusqu'au bas de la citadelle. Il y resta évanoui 1 heure avant d'être secouru, relevé transi et meurtri de partout par un porteur d'eau qui l'aida à gagner la maison de Monseigneur de Montluc, ambassadeur de France, lequel demeurait à quelques pas de là. Et Monseigneur de Montluc fit si bien et s'employa avec tant de zèle qu'au bout d'un mois, Benvenuto était guéri, qu'au bout de 2 mois, il avait sa grâce et qu'au bout de 4 mois, il partait pour la France avec Ascanio et Pagolo.